cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 14 janvier 1993.
Nous avons rappelé rapidement ces deux grands axes de la recherche de ce qui est en tant qu'il est, c'est-à-dire autant que nous pouvons le connaître, qu'est-ce que c'est que l'exister, l'être, notre être, et pas notre être dans le sens de l'âme humaine qui nous fait comprendre notre être et l'être de l'âme. Cette formule d'Aristote qu'il ne faut jamais oublier, l'être à l'homme, c'est ça que recherche le métaphysicien. En philosophie du vivant, on cherche l'être humain, l'être de l'homme. C'est plus juste dire l'être de l'homme. Peut mettre tout l'accent sur le point de vue de l'être. Et nous avons vu comment c'est le point de vue de la source de toute détermination. L'être se donne à nous dans la détermination. La substance, c'est toujours la même recherche. Qu'est-ce que c'est que la réalité que nous touchons, que nous voyons? Qu'est-ce que c'est que la réalité de nous-mêmes? Et nous découvrons la substance. Dévoilons la substance. Puis nous avons vu comment il n'y a pas de découverte. Oui, il n'existe pas, c'est plus juste dire ça, il n'existe pas de cause propre selon la matière. Au niveau de l'être, l'être est au-dessus. Cependant, la matière demeure toujours au niveau du devenir. Et ce passage du devenir à l'être, qui est quelque chose de si important à bien saisir, chacun d'entre nous devons faire cette découverte. Ce qui est n'est pas le devenir. Et nous devons faire la même découverte dans la recherche de la cause propre, de la cause efficiente. Il n'y a pas de cause propre efficiente de ce qui est en tant qu'il est. de la fin. En vue de quoi? La réalité, regardée du point de vue de ce qu'elle est, de son exister. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte, distinct de l'être en puissance? Vous voyez, il y a deux causalités, ou deux principes, deux sources de l'être. La substance, l'être en acte. La substance est ce qui finalise l'être, ce qui est sa fin, l'acte. Il faut toujours maintenir ces deux aspects.
Ici.
psychologique capable de déterminer l'intelligence. Alors on identifie l'être et l'intelligible et on considère que au-delà de l'être, il y a l'un. L'un étant en quelque sorte ce qu'il y a de plus secret dans l'être, ce qui lui donne son autonomie. Oui, c'est tout le problème de l'autonomie, je crois, et c'est pour ça que c'est très actuel, cela. Vous savez bien qu'avec le point de vue psychologique, l'autonomie, et non, reverrons ce problème-là avec la personne, l'autonomie devient un problème central. C'est le bateau du psychologue ou le dada du psychologue. Toujours l'autonomie, l'autonomie. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça n'est rien. Ayez de l'autonomie. Ayez votre autonomie. Découvrez votre autonomie. Je crois que c'est le problème de l'un, ça. Très fondamentalement. Parce que l'un implique la division, implique la négation de la division. Or, on est divisible quand on est relatif à un autre. C'est ça qui met en nous la divisibilité la plus radicale, c'est d'être relatif à un autre. Vous êtes relatif à un autre, vous n'êtes pas vous-même. Et c'est vous relatif à un autre. Et l'unité, c'est la négation de la division. La négation de la relativité à un autre. D'où l'autonomie. Vous voyez, j'essaie de comprendre comment on est arrivé à mettre l'un au-delà de l'être. Et ça, c'est très important à saisir au point de vue philosophique. Comment on met l'un au-delà de l'être? Est-ce que ça a joué au niveau de notre philosophie, aussi bien celle de l'Europe que celle de l'Inde? C'est un problème plus fondamental encore que la distinction être et devenir. La distinction être et devenir, elle est assez grossière comparativement à la distinction de l'être et de l'un. C'est beaucoup plus subtil, la distinction de l'être et de l'un. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre comment, de fait, facilement, on considère l'un au-delà de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire de considérer l'un au-delà de l'être? L'un devient comme la qualité dominante de l'être. Et oui, je ne dis pas la qualité de l'être, puisque pour moi, dans la perspective d'Aristote, c'est vrai que l'un est une qualité de l'être, propriété. Qualité. Et la qualité la plus radicale de l'être, on pourrait presque dire la manière la plus élégante d'exister. Et je dis bien la manière, donc le pose, le comment tout à fait premier, tout à fait radical. On existe dans la simplicité, donc dans la non-division. On existe en étant toujours parfaitement soi-même. C'est bien ça, là. Si vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que l'unité en vous, l'unité de votre être. analyse et demande d'être analysé. L'un refuse l'analyse. C'est le noyau le plus solide, le plus radical, par où l'être est parfaitement lui-même, sans être relatif, sans être composé. C'est le noyau dur, voyez, et ça qualifie ça, je crois, dans la perspective du réalisme. C'est bien cela, l'un. L'être qui se tient par lui-même dans une indivision. Il est tellement fort qu'il ne se divise pas. Il ne peut pas être divisé. Il a en lui-même cette force d'être indivis. Et c'est pour cela qu'on verra que l'être et l'un sont toujours en parallèle. Partout, il y a l'être, il y a un. Et d'une certaine manière, il y a la même extension et la même compréhension. Au plan critique, on dira que l'un et l'être sont convertibles. S'ils sont convertibles, ils sont parallèles, tout le temps, l'un à l'autre. Et c'est vrai, au point de vue critique, ils sont convertibles. Et cependant, je distingue dans la signification l'être et l'un. L'un ajoute quelque chose à l'être. Il fait que l'être est indivis, ne supporte pas la division et rejette toute divisibilité. Il possède en lui-même son autonomie totale. C'est bien ça, là. Le multiple, au contraire, c'est ce qui fait qu'on n'a plus cette structure profonde en soi et qu'on est divisible, qu'on peut nous attaquer, qu'on peut nous diviser. D'où multiple. Alors, une fois que vous avez saisi ce lien très fort entre être et un, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. C'est de saisir ce lien très fort entre l'être et l'un. Vous devez ensuite saisir quel est l'ordre qui existe entre les deux. Mais c'est par là qu'on peut comprendre la confusion ou l'erreur du platonisme et du néoplatonisme. Il y a quelque chose de positif dans cette erreur, comme toujours. Dans toute erreur, il y a quelque chose de positif. Le quelque chose de positif, c'est de voir que l'être et l'un apparaissent du point de vue critique, convertibles. Là, vous voyez, si la critique est avant la métaphysique, je n'en sors pas. Et c'est vrai. L'un et l'être sont convertibles. intéressant de saisir ce qu'il y a de commun entre les deux. Et c'est au niveau critique qu'on saisit ce qu'il y a de commun. C'est pour ça, si la critique est première, le néoplatonisme et l'aristotélisme s'embrassent. Ils sont confraternels. C'est très curieux. Et c'est pour ça qu'au fond, on a toujours la tentation de mettre la critique avant tout. Si vous mettez la critique avant tout, vous avez un œcuménisme parfait. Les deux grandes tendances philosophiques s'embrassent. Le néoplatonisme et l'aristotélisme sont un. Est-ce que c'est pas ça, être intelligent, dépasser l'opposition d'aristotélisme et l'aristotélisme et le néoplatonisme? Toute la philosophie européenne est ou Aristote ou néoplatonisme. Et je crois que toute la philosophie américaine aussi, et toute la philosophie de l'Inde aussi. Donc on pourrait dire toute la philosophie humaine est l'un ou l'autre, à tel point que certains ont dit il y a la philosophie virile, la philosophie féminine. Faites votre choix. Et que les deux sont deux sœurs jumelles. Et donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et ce qu'il y a de plus grand, c'est de choisir leur unité. Et l'unité entre les deux se fait au niveau critique. Puisqu'au niveau critique, l'être et l'un sont convertibles. Ce sont les deux bras de la philosophie. Ou les deux yeux de la philosophie. Et qu'il faut toujours les deux pour avoir le relief. Et donc, c'est surtout pas opter pour Aristote ou opter pour le néoplatonisme, mais opter pour la synthèse des deux, l'unité des deux. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le rêve le plus profond d'une philosophie comme Hegel? Arriver à la synthèse de l'aristotélisme et du néoplatonisme, puisque Aristote, c'est quand même quelque chose de merveilleux, que Hegel reconnaît comme la chose la plus merveilleuse qui soit. Et comment se fait-il que, par sa méthode dialectique, il est plus proche du néoplatonisme que d'aristotélisme? Est-ce que ce n'est pas la fascination d'être au-delà de ces deux grandes tendances philosophique, l'aristotélisme, le platonisme? Or, c'est le problème de l'un et de l'être qui me met en face de ces deux grandes tendances. Et ce problème de l'un et de l'être, il est dépassé dans la critique, puisque l'être et l'un sont convertibles. Il faut bien saisir ça, je crois que c'est très très important. Parce que c'est peut-être, vous voyez, la nostalgie la plus profonde que nous portons en nous, au point de vue intellectuel, au point de vue du développement de notre intelligence. Si on pouvait être en même temps aristotélicien et néoplatonicien, quelle merveille! Vous voyez, au fond, ça rejoint ce que je vous ai déjà dit. Si on pouvait rejoindre la métaphysique de l'être et la métaphysique de l'esprit. Et ça va encore plus loin que dire métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit, métaphysique de l'être et métaphysique de l'un. Si on pouvait les rejoindre, si on n'était pas obligé de dire l'une est vraie, l'autre est fausse. C'est très embêtant de dire l'une est vraie, l'autre est fausse, parce qu'on est obligé d'opter. Et en étant aristotélicien, on abandonne des quantités de choses du néoplatonisme. C'est si intéressant, le néoplatonisme. C'est si merveilleux. Le néoplatonisme développe le point de vue du beau en faisant du beau. me pose, je m'installe dans le beau. On a une telle nostalgie du beau. Le beau est au-delà du bien et du mal. C'est beau. Tandis qu'être obligé de choisir le bien et le mal, c'est pas drôle du tout. C'est humain. Mais je fais de plus. L'esprit est au-dessus. Vous voyez la nostalgie du beau. Et c'est vrai que le néoplatonisme développe énormément le beau. Le néoplatonisme développe les valeurs plutôt que la finalité. C'est tellement plus agréable de parler des valeurs que de parler de la finalité. Tout le monde comprend les valeurs. Tout ça, vous voyez, sont des restes de néoplatonisme. Ce fait tellement magnifique d'inventer la philosophie au-delà de l'aristotélisme et du néoplatonisme. Une philosophie qui unit les deux. C'est un rêve, ça. Je crois que ça, c'est le paradis terrestre du philosophe. C'est la nostalgie du philosophe. Et nous portons tous en nous cette nostalgie. Et nous devons la détecter. Parce que tant qu'on ne l'a pas détectée, on reste dans cette nostalgie. Ça, un jour, ça arrivera. Et au fond, on désire le faire. Et je voudrais que vous sentiez ça, cette nostalgie. Parce que vous l'avez tous, vous avez tous cette nostalgie-là. C'est aristotélisme, platonisme, on nous assomme avec l'aristotélisme. C'est assommant. Soyons un peu néoplatoniciens. Et c'est pour ça que, de fait, vous avez toujours des commentaires, des commentateurs de saint Thomas. Il est plus néoplatonicien qu'aristotélicien. Il est néoplatonicien avant tout. Oui, il assume quelques données d'Aristote, c'est sûr, mais au fond, il est néoplatonicien. Et un chrétien doit être néoplatonicien. Et un chrétien doit être hégélien. On arrive aujourd'hui. Un bon théologien, aujourd'hui, doit être hégélien. C'est bien plus noble que Thomas d'Aquin. C'est bien plus subtil que Thomas d'Aquin. L'hégélianisme, c'est la grande tentation. Et l'Église catholique est en face de cette tentation qui sort de Luther. Petit-fils de Luther. Et je crois que c'est la très grande tentation. Quand le démon est chassé d'une maison, il revient cette fois plus fort. Il revient de façon bien plus subtile. Alors là, nous touchons avec le problème des rapports de l'un et du multiple. On touche ce qu'il y a de plus subtil dans l'option qu'on doit faire. Et une option qui ne se fait pas subjectivement. J'aime mieux l'aristotélisme que le platonisme. Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est une question de sincérité. Et s'il y avait une question de sincérité, je mettrais à droite les aristotéliciens. à gauche les néoplatoniciens. Parce que les uns sont sincères dans l'Aristotèle, les autres sont sincères dans le néoplatonisme. Il y a deux sincérités. Il n'y a qu'une vérité. On est toujours coincé par la vérité. Alors, comprenez qu'il y a de fait en nous tout le temps cette nostalgie du néoplatonisme. Le père Dehaut me disait quand j'étais jeune étudiant comme vous, c'est très difficile de rester jusqu'à la fin de sa vie aristotélicien. On a une tentation terrible à partir 65 ans, 70 ans, d'assumer le néoplatonisme. C'est tellement plus beau. Et c'est très vrai. Maintenant, je comprends ce qu'il disait. Il disait qu'il était très difficile de rester aristotélicien jusqu'au bout. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Ah, c'est que l'être et mesure de mon intelligence et l'un est le fruit de ma pensée. Comme c'est plus agréable d'être avec son fils que d'être avec son gendre. C'est comme c'est plus agréable. On se comprend. On se comprend. Admibo. On a l'esprit de famille. L'autre, on ne sait jamais d'où ça vient. L'être, il est toujours un peu étranger. C'est l'autre. À première vue, c'est comme ça, c'est l'autre. Et là, ah oui, c'est moi qui le fais. La négation. Le primat de la négation qui me permet de saisir là. Qu'est-ce que c'est que l'un, ce qui n'y a pas de division. Donc c'est par la négation que vous formalisez l'un. Et l'être, on ne peut pas le formaliser. Il est mesure de mon intérieur. Il est avant. Toujours un peu étranger. Toujours un peu étranger. L'être me déroute tout le temps. Je ne peux jamais dire que j'assimile l'être. Donc, il y a toujours une résistance terrible. Je suis obligé de revenir tout le temps au jugement d'existence, et le jugement d'existence me met en face de quelque chose qui est comme un mur. Ce que dira Kant, le noumen, on ne le connaît pas. Il a raison de dire ça. Le noumen, c'est dire l'être. Je ne dis pas qu'on ne le connaît pas, mais il y a toujours en lui quelque chose qui est antérieur à moi. Il y a tout le temps dans l'être quelque chose qui s'impose à moi et qui me relativise. L'un jamais me relativise. C'est mon fils. Je sais bien que la révolte du fils est pire que la révolte du gendre. Ça, c'est évident. La révolte du gendre, c'est pas étonnant. Il fait pas partie de la famille. Tandis que la révolte du fils est à l'intérieur de la famille. C'est très différent. Et c'est très différent de voir la révolte de l'être et la révolte de l'un. Je dis ça pour que vous compreniez un peu ce problème de l'un et du multiple, parce que c'est ça qui est intéressant. Venez. Oui, Aristote a dit que l'être, l'un est acolyte, tout très bien. On répète ça, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Et pour le néoplatonisme, l'être est premier. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Platon dit que l'un est avant l'être? Qu'est-ce que ça veut dire quand Plotin reprend ça et met l'un avant l'être? Et alors, pour fortifier leur position, cette de Plotin, on dit l'un et le bien. Alors on a les deux sommets, l'un et le bien, puis l'être en dessous. Donc la métaphysique est dépassée par la métaphysique. La métaphysique et seule la métaphysique qui me permet de comprendre ce qu'est l'un et ce qu'est le bien et ce qu'est le vrai. La métaphysique de l'acte a 5 modalités, mais unies dans l'être. Vous voyez, je crois, alors là, c'est ça qu'on doit essayer de saisir. Je crois que seule la métaphysique de l'être en acte, donc seule la saisie de l'acte, permet de comprendre comment l'être est avant l'un et comment l'être est avant le bien. Si je reste à une métaphysique de la substance, comme dit Gilson, en présence d'une ousiologie, ousiologie, pas la substance est ousia, et regardez uniquement la substance, on a une ousiologie. Et ils disent qu'Aristote, c'est une ousiologie, ça c'est la grande mode aujourd'hui. Donc il faut comprendre la grande mode. Et puis, il faut surtout pas cesser de séduire. Si la métaphysique d'Aristote est une ousiologie, je comprends comment, au-delà de la substance, il y a l'un. Et je comprends comment, au-delà de la substance, il y a le bien. Tandis que si la métaphysique d'Aristote est la métaphysique de l'être en acte, que l'être en acte est la fin de l'être, alors je comprends comment l'un est acolyte de l'être et comment le multiple est acolyte de la puissance. Partout où je suis en présence de l'être en puissance, je suis devant le multiple. Partout où je suis en présence de l'être en acte, je suis en présence de l'un. Et c'est bien cette métaphysique de l'être en acte et de l'être en but et de l'être en puissance qui me permet ce dépassement. Alors que la métaphysique de la substance, qui est fondamentale, ne me permet pas de répondre à Platon et à Platin et au néoplatonisme et à Hegel par le fait même. Alors pourquoi ? Mais c'est très simple, parce que la substance, principe immanent de ce qui est, principe selon la forme de ce qui est, donc immanent. C'est fondamental, c'est premier, mais c'est immanent dans la réalité. Et donc, ça me fait découvrir l'intelligibilité fondamentale de tout ce qui est. Quand Aristote affirme que la substance, c'est la quiddité première. La quiddité n'est parfaitement quiddité qu'à l'égard de la substance. Donc il montre bien que c'est le fondement de toute l'intelligibilité de ce qui est. Alors à ce moment-là, on ne peut plus découvrir le dépassement de l'être par rapport à l'intelligibilité, le dépassement de ce qui est par rapport à l'intelligibilité. Et donc, on identifie être et intelligibilité. Et en identifiant être et intelligibilité, nécessairement, l'un est au-delà de l'être. Puisque l'un montre la manière d'exister la plus parfaite. vide et absolu, là. Au-delà de quoi je ne puis pas aller. Dans l'ordre de l'intelligibilité, là.
Tandis que l'être en acte a cette force.
se relativise par rapport à l'être en acte. Si vous comprenez bien cela, vous voyez que par là, on montre au plan critique que l'affirmation est antérieure à la négation. Mais s'il faut l'affirmation de l'être en acte, seule l'affirmation de l'être en acte me permet de relativiser le point de vue de la négation. En dehors de l'être en acte, je ne peux pas relativiser. L'être A, l'unité. Ceci, je crois très important au moins de comprendre qu'il y a là un os extrêmement important à dépasser. Parce que c'est tellement actuel, le primat de l'un sur l'être. Je crois qu'on peut dire que 95 des philosophes aujourd'hui, 95 sur 100 des philosophes aujourd'hui, mettent l'un avant l'être. Alors, regardons encore pour mieux saisir. En mathématiques, l'un est avant l'être. C'est encore l'autre position. Il y a le néoplatonisme et les mathématiques. Pour Platon, les mathématiques sont l'intermédiaire nécessaire pour atteindre le point de vue métaphysique, pour atteindre le point de vue de la philosophie. Je dois passer par les mathématiques. Husserl passe par les mathématiques pour sa philosophie. Il fait une thèse de doctorat en mathématiques pour être ensuite philosophe. C'est le néoplatonisme. Et ça, c'est toute la pensée contemporaine, Husserl. On peut dire que Husserl, à la suite de Hegel, montre le point de vue du primat mathématique sur la philosophie. Primat, entendons-nous bien, il y a un dépassement de la philosophie par rapport aux mathématiques, mais les mathématiques sont le métaxu nécessaire, comme ceux qui disent que la critique est le métaxu nécessaire à la philosophie. Vous voyez, on touche là, avec ce problème de l'un du multiple, on touche là le problème le plus actuel. Mais aussi plus difficile. C'est sûr que c'est pas commode du tout de vraiment penser, je dis pas répéter, mais de penser ce qu'Aristote dit, l'un est acolyte de l'être. Répétez ça souvent en vous, pour comprendre ce que c'est que l'acolyte. Au point de vue métaphysique, qu'est-ce que c'est que l'acolyte? C'est là. Oh, tiens, tu es acolyte cette semaine. Oui, tu es un. Tu manifestes l'unité. C'est du reste très beau. Hein. L'acolyte de l'être, c'est là. Le panache de l'être, c'est là. Là, on comprend le lien entre le beau et là. Et c'est vrai, c'est le rayonnement. Et de comprendre que le rayonnement de l'être en puissance, c'est le multiple. Le multiple se cache dans l'être en puissance. Il se cache toujours le multiple. Parce qu'il n'est pas glorieux, le multiple. C'est pas glorieux du tout, le multiple. Il faut être très matérialiste pour comprendre que le multiple, c'est glorieux. Il y aurait un novice qui serait un saint. C'est plus que 50 novices qui ne sont pas des saints. Vous voyez bien ce que je veux dire. On a besoin du multiple pour qu'émerge de là un grand prophète. On a besoin de la quantité. Il ne faut surtout pas rester dans la quantité. On a besoin de la quantité pour que de là émerge ceci de tout à fait particulier, qu'il réclame l'unité, qu'il réclame et qu'il réalise l'unité. Acolyte de l'être, là. Alors vous voyez qu'au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, c'est très intéressant, très important.
Certitude. Rien n'est au plus, n'est au
science la plus certaine qui soit. Ce qui explique le lien entre Descartes et les mathématiques. Le modo geometrico. Alors, on abandonne la qualité de l'être en acte, la finalité, pour la certitude. Alors, on trouve là, vous voyez, j'allais dire la première traîtrise. Je ne veux pas dire que tous les mathématiciens sont traîtres, mais si on remplace la métaphysique par les mathématiques, là, on fait une traîtrise. Inconsciente, souvent. Et c'est là où on vend le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est très, très curieux, ça. Hein, la traîtrise philosophique, la traîtrise de l'intelligence, c'est d'abandonner la finalité pour la certitude. Vous voyez, je crois que c'est le fondement de l'abandon de la vérité pour la sincérité. C'est analogue. Quand vous abandonnez la vérité pour la sincérité, c'est toujours l'abandon de la vérité pour la certitude. C'est très curieux, tout ça se tient. Et en définitive, c'est faire passer l'un avant l'être. Et si vous faites passer l'un avant l'être, vous aboutissez nécessairement à tout cela. Donc on touche avec le problème de l'un et du multiple, on touche le lieu des fausses unités, dépasser la distinction aristotélisme-néoplatonisme, comme si on pouvait dépasser cela. On dépasse en critique, mais la critique n'est jamais première. Faire de la critique, ce qui est premier, c'est, je crois, la trahison la plus grande au point de vue de l'intelligence. Ce qui explique les réactions si violentes d'un Hegel, d'un Nietzsche à l'égard de Kant. En comprenant que les fossoyeurs de l'intelligence. Et c'est vrai, on est fossoyeur de l'intelligence si on met la critique avant l'intelligence, avant la métaphysique, avant la connaissance. Parce qu'à ce moment-là, on relativise la pensée. Et on ne cherche plus que le vécu. Et c'est le vécu qui est premier. Et tout ça, encore une fois, c'est le problème de l'un et de l'être.